France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Le musée du Louvre à Paris est-il tout entier contenu d'une certaine manière dans la figure et le sourire de la Joconde? Léonard de Vinci et son œuvre peuvent-ils personnifier le musée le plus visité du monde? Et dans quelle mesure cette œuvre emblème peut-elle expliquer le succès du Louvre? Cette question vaut pour de très nombreuses autres œuvres évidemment contenues au Louvre et pour de très nombreuses autres institutions culturelles en rapport avec leurs pièces maîtresses. Mais à l'occasion de la préparation d'une grande exposition consacrée à Léonard de Vinci au Louvre pour le mois d'octobre, exposition qui a nécessité le très délicat déplacement de la Joconde d'ailleurs la semaine dernière vers la Galerie Médicis pour la rénovation de la salle des États. Et alors qu'on vient de fêter les 30 ans de la pyramide de Pei, nous allons nous poser toutes ces questions en partant du musée du Louvre en compagnie de Vincent Broqueviel. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans les matins d'été. Vous êtes critique d'art, écrivain, éditeur indépendant. Vous venez de publier à la réunion des musées nationaux au Grand Palais un beau livre sur le fabuleux destin des icônes du Louvre. Pourquoi c'est connu? Votre ouvrage s'intéresse aux œuvres du Louvre et on va y revenir. C'est un manuel d'histoire de l'art louvre-centré, on pourrait dire ça comme ça. Pourquoi le Louvre, en tant qu'institution, est connu, Vincent Broqueviel? Et pourquoi il a du succès? Ce n'est pas qu'une addition d'œuvres, le Louvre.
C'est un lieu central. Pourquoi est-ce que le musée lui-même est connu? C'est-à-dire pourquoi est-ce que le bâtiment construit, enfin dont l'histoire commence au XIIe siècle sous Philippe Auguste est connu? Pourquoi est-ce que les rois à partir de Charles V, Henri IV, en ont fait leur domaine royaux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce grand dessein qui était de faire une grande galerie et de faire un palais qui va être augmenté jusque au Second Empire. Voilà, c'est autant de réponses. C'est-à-dire que c'est pourquoi le Louvre est connu, c'est parce qu'il a une histoire centrale. Il fait partie de l'histoire de France. Ensuite, il y a l'histoire du musée elle-même, avec les collections, qui sont des collections extrêmement riches. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire. Quand on me pose la question pourquoi c'est connu, ça me rappelle la manière dont ce livre ou cette collection a été initiée.
Oui, parce que sur le Louvre, c'est une édition, mais il y a effectivement le...
Il y a eu Orsay.
Orsay, voilà.
Ouais. Et donc, quand on me pose la question pourquoi c'est connu, j'ai toujours cette difficulté à répondre.
Cette question, elle vient, en deux mots, elle vient du public au musée qui se retourne devant une œuvre et ne la connaît pas vraiment ou n'a pas forcément les détails dans la connaissance et se dit tiens mais j'ai déjà vu ça, c'est connu, pourquoi c'est connu, c'est ça,
voilà. C'est de là d'où vient le questionnement. C'est ça l'anecdote en fait. Ouais. J'étais au Prado avec ma nièce et puis on était dans cette grande galerie très lumineuse avec la possibilité de se dégager vers la gauche là où il y a énormément de monde, où il y a cette grande toile de Velázquez, les Ménines, et ma nièce me pose la question, mais pourquoi c'est connu? À partir de là, c'est compliqué. Il faut aller très vite, tout se bouscule dans la tête. Alors, je suis déjà... Pour d'autres tableaux, je lui ai déjà dit qui était l'artiste, quel était le sujet. Et là, pourquoi c'est connu, c'est une question très très spécifique. C'est-à-dire que c'est de l'historiographie. Pourquoi les Ménines sont connus? Donc, en réfléchissant très vite, comment je les ai connus moi par Foucault dans Les mots et les choses, par la critique qu'il fait, par la représentation de la représentation classique. Non, c'est trop compliqué. Je vais pas répondre ça à ma nièce. Et en même temps, je me rends compte que il faut raconter l'histoire, il faut raconter le sujet, et puis il faut peut-être l'inviter à comprendre pourquoi tout le monde autour de cette toile est en train d'essayer de percer l'énigme. Et c'est ça pourquoi c'est connu. C'est comment le public se pose la question de l'œuvre qu'il a en face de lui.
Alors vous dites c'est très compliqué, mais vous réussissez quand même en quelques paragraphes sur un certain nombre d'œuvres qui ont été sélectionnées au Louvre. Et c'était le cas aussi pour effectivement le musée d'Orsay. Vous réussissez à faire cette œuvre d'historiographie et cette œuvre aussi d'historien de l'art. Donc c'est compliqué, mais c'est quand même en synthétisant un peu.
C'est ça. C'est le principe de la synthèse. Il faut en une double page dire toutes les choses à tous les niveaux, c'est-à-dire le contexte, mais aussi les anecdotes, la manière dont les collectionneurs, la télévision, le cinéma, la littérature ont permis à une œuvre d'accéder à la célébrité.
Vous dites qu'il n'y a pas de recette finalement pour la célébrité d'une œuvre.
Non, il y a beaucoup d'ingrédients.
Il y a beaucoup d'ingrédients, ouais. Mais il n'y a pas de recette miracle. Est-ce que c'est pareil pour une institution culturelle comme le Louvre, si on revient au Louvre en tant qu'institution culturelle? C'est aussi évidemment une énorme diversité d'œuvres qui fait le succès du Louvre.
Oui. Avec le fait de venir voir des chefs-d'œuvre qu'on connaît sans les avoir vus. Donc il y a ce rapport-là, et puis il y a tout le travail de muséographie qui est fait. C'est une institution qui a travaillé au fait d'augmenter le nombre de visiteurs chaque année.
Et en même temps, il faut quand même pouvoir citer une œuvre, non, pour être certain que l'institution soit considérée comme reconnue, peut-être auprès du grand public. Le Louvre, la Joconde, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir cette œuvre emblème ou ces œuvres emblèmes où il y a un danger derrière, Vincent Brugviel?
Alors, pour le Louvre, je ne pense pas qu'il y ait de danger dans la mesure où si la Joconde est difficilement accessible aujourd'hui à cause de la préparation de l'exposition, du transfert, l'exposition Léonard de Vinci.
Elle est difficilement accessible en général, hein, même dans les salles d'État, il y a énormément de monde, 30 000 je crois.
Oui, c'est 33 000 par jour.
33 000 par jour, hein, spectateurs qui viennent essayer d'admirer pendant quelques secondes.
Voilà. Donc même si on l'écarte, on est sidéré face à la victoire de Samothrace en haut de l'escalier. Donc, comment dire, il y a d'autres.
Il y a de la croix
et pas des moines.
Oui, la liberté guidant le peuple, le scribe accroupi, la Vénus de Milo pour essayer d'aller dans différentes disciplines à différentes époques. À l'heure de la logique des masses, quand même, Vincent Brugviel, il faudrait quand même que chaque institution puisse avoir son icône. Non, je crois que c'est un débat qui a cours en ce moment, notamment à Pompidou, pour parler d'art moderne.
Alors, à Pompidou, effectivement, ils ont peut-être ce problème qu'ils sont en train de transformer en argument et en avantage. Ouais. Ils n'ont pas les demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire que s'il y a un Picasso au MoMA, s'il y a plusieurs Picasso au Centre Pompidou, il y a un Arlequin. Il y a des toiles de la période cubiste. Il n'y a pas vraiment une œuvre qui ressort de Picasso. Il n'y a pas un chef-d'œuvre, mais il y a cet avantage d'avoir plusieurs périodes de Picasso, d'avoir un bel éventail. Votre question est intéressante parce que le Centre Pompidou est en train de travailler à ça en ce moment. Ils voudraient d'ici cet automne. Ils ont sélectionné 7 œuvres, je ne sais pas comment ils ont fait. Enfin, je sais comment.
Mondrian, je crois. Oui. Kandinsky aussi. Alors après, voilà, il va falloir choisir pour savoir quelle œuvre va. Mais c'est extrêmement dangereux, non, Vincent Brugviel, de trouver une œuvre qui va nous représenter.
C'est le processus qui est intéressant. C'est-à-dire que pour déterminer quelles sont ces œuvres qu'ils ont envie de mettre en avant, donc 7, ils ont demandé à la fois au public, aux conservateurs, mais aussi aux gardiens de musées. Donc ils mettent tout le monde est mis à contribution. Et puis, alors c'est pas un concours, mais c'est une péréquation, on va dire. Pour Matisse, est-ce que la blouse roumaine, c'est elle qui a été choisie parmi les 7 chefs-d'œuvre? Est-ce qu'a priori on la connaît? Quand on la voit, on la connaît. Et elle est représentative de l'art de Matisse. Donc ça contente à la fois le public et les conservateurs. L'urinoir de Duchamp, on peut le voir ailleurs. C'est un multiple. Mais son histoire est formidable, donc
voilà. Il pourrait faire partie de ce choix. Ouais. Le Louvre, vous le dites dans votre livre d'ailleurs, pourquoi c'est connu le fabuleux destin des icônes du Louvre. On trouve au Louvre la Vierge à l'enfant avec Sainte Anne de Léonard de Vinci. On pourrait se libérer un peu de cette image qui est peut-être un peu lourde de la Joconde, même si c'est la Joconde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'on fossilise un peu l'image d'un musée? La Vierge à l'Enfant, vous dites, c'est le chef-d'œuvre de...
Enfin, de Léonard de Vinci.
Oui, c'est peut-être, s'il devait y en avoir un, le chef-d'œuvre de Vinci. Il est au Louvre.
Oui, amusons-nous à, à faire un classement dans le classement.
Ouais.
Sainte-Anne, bah, là aussi j'ai une autre anecdote qui est comment un ami colombien avec qui j'étais allé voir l'exposition donc Sainte-Anne rénovée en 2010, comment lui la connaissait? Il la connaissait par Freud, par un écrit sur l'enfance de Léonard de Vinci. Il avait une théorie qui était fausse, qui était on voit apparaître un oiseau sur la robe de la Vierge. Et puis moi j'avais une connaissance qui était tout autre, qui était le fait que cette trinité, la Vierge, Sainte Anne, donc sa mère et l'enfant, est issue d'une querelle qui vient du Xe siècle et qui n'en finissait pas au XVe et au XVIe. On se posait la question de l'Immaculée Conception, et cette œuvre, ce sujet-là, était le sujet le plus traité. C'est-à-dire que c'était une œuvre connue avant même d'être faite. C'était le sujet lambda. Donc voilà, on a confronté nos points de vue sur l'œuvre pour se rendre compte que une œuvre d'art vit. Elle a sa propre vie. Elle peut avoir une célébrité au moment où elle est faite. C'est-à-dire que Raphaël voit Léonard de Vinci dans son atelier quand il est en train de peindre la Vierge et Sainte Anne. Et puis, l'œuvre se couvre de poussière, elle jaunit, le vernis jaunit, et en 2010, on fait cette exposition où on redécouvre. Mais c'est fabuleux quand on voit en plus la scénographie était formidable parce que c'était une exposition documentaire avec les œuvres d'atelier, etc. Quand on arrive à la fin de ce parcours, il y a des frissons, il y a quelque chose de formidable. Vous parliez de parcours. Je dansais.
Vous dansiez aussi, effectivement, Vincent Morguel. Je voulais pas révéler toute l'intimité de ce studio à nos auditeurs, mais c'est vrai. Jay-Z et Beyoncé, vous parliez de parcours. Il y a un parcours Jay-Z et Beyoncé au Louvre. Parcours qui retrace celui du couple le plus célèbre de la pop actuellement au Louvre quand ils ont tourné ce clip là.
Voilà.
On est en train d'entendre.
Qui permet de s'arrêter devant chacune des œuvres qui est présente dans le clip. Ouais.
Il y a aussi un parcours Da Vinci Code, il y a tout un tas de choses. Ça fait partie des ingrédients d'une des recettes qu'on peut utiliser
pour faire en sorte de
susciter la visite, c'est ça évidemment l'enjeu.
Et puis aussi pour écrire ce livre, je suis allé au Louvre régulièrement pendant plus d'un an.
Quel beau métier.
Oh oui, c'était formidable pour voir qu'effectivement il y a des parcours tout tracés. Il y a cette espèce de course à la Joconde le matin dès l'ouverture, un sprint qui se reproduit chaque matin. C'est assez drôle à voir. Et puis il y a les esprits chagrins qui disent il y a trop de monde, la grande galerie sans la transpiration, etc. Ce qui est étonnant dans les parcours, c'est que on peut vraiment prendre du plaisir. Il est tellement grand ce musée que on a un choix de parcours et on peut aussi se perdre facilement, et c'est assez agréable cette chose-là.
Susciter la visite, y compris pour des œuvres qu'on connaît déjà, dont on sait qu'on va les retrouver exactement de la même façon. C'est ça l'enjeu pour les grands musées aujourd'hui.
Oui, et puis aussi j'ai une image qui me vient parce que c'est l'été. Je ne vais pas à la plage à midi. Il y a trop de soleil et en plus il y a souvent un peu trop de monde. On peut choisir ses horaires, et puis on peut choisir aussi d'aller voir la peinture française, les primitifs flamands. Il y a jamais grand monde là-bas. Mais on voit des gens qui connaissent le principe et qui sont là quasiment tous les jours. En tout cas, j'ai revu régulièrement en allant visiter le.
Comment vous expliquez ça?
Je sais pas. Ça me fait penser à Thomas Bernard, aux maîtres anciens, peut-être une structure, peut-être une pensée qui se délie face à un tableau, la possibilité de réfléchir à un moment de sa vie face à une œuvre.
On continue à percer les secrets du succès du Louvre, entre autres buts de discussion ce matin, Vincent Bruegviel avec vous.
Ce qui m'a frappé en lisant l'histoire du Louvre, c'était la continuité et le changement. Et je crois que ces deux éléments, et c'est ça qui fait du Louvre un projet intéressant, ce qui rend possible pour quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger, à sentir que le Louvre n'est pas un complexe qui a été achevé à un moment de l'histoire, mais un complexe qui a été formé par plusieurs siècles de changement. Et nous devons être convaincus que actuellement, c'est le moment de faire encore des changements. C'était un palais, il faut qu'il soit changé. Et ce moment très important dans l'histoire du Louvre implique cette évolution qui est représentée par la pyramide, et ça nous a donné la confiance de progresser, mais sans savoir que l'histoire du Louvre est pleine de changements, ça aurait été très intimidant pour nous de faire ce changement, de prendre ce pas.
Yong Ming Pei, l'architecte de la pyramide du Louvre, qui fait partie également des œuvres auxquelles vous vous intéressez. Dans Pourquoi c'est connu, le fabuleux destin des icônes du Louvre, Vincent Bruegviel, c'est la dernière œuvre finalement de votre livre. Vous expliquez que sous cette pyramide, 40 siècles d'histoire nous contemplent.
Alors c'est Violaine, la directrice, Violaine Bouvet-Lancel, la directrice des éditions du Louvre, qui m'a proposé de mettre cette œuvre en disant mais pourquoi pas la pyramide du Louvre comme une chose très connue. Elle a eu une très bonne idée. Ça m'a permis de me replonger dans les archives et dans toutes les polémiques qu'il y a eu dans les années 80 autour de la construction de la pyramide. Le fait qu'effectivement, je sais pas si vous vous souvenez de la cour Napoléon, du parking, ministère des Finances. Et voilà, c'est l'histoire récente, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je le trouve formidable, moi, cet architecte qu'on entendait. Ce que je savais pas, c'est que c'était un élève de Gropius, c'est quelqu'un qui vient du Bauhaus. Et je le comprends maintenant, c'est-à-dire que il a pas fait de pastiche, il a travaillé la structure, il a travaillé la fonction. Ça tient dans le temps. Voilà, je trouve très très bien.
Toute cette histoire d'historiographie, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Vincent Bruegviel. Là, il y a un bel exemple. Effectivement, cette pyramide a été à son début, au début des plans conspués par un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, plus personne ne l'a remis en cause. Elle est là, elle fait partie du Louvre.
Et on l'a fête.
Ouais. Et on l'a fête.
Ouais, c'est les 30 ans, là. Ouais. Avec un objectif, pour revenir au début de la discussion, un objectif qui était de 5 millions de visiteurs. Voilà, il a été doublé. On est à 10 millions en 2018.
Et ça continue à monter.
Oui, je crois.
Plus de 12 millions, je crois.
D'accord.
Maintenant, merci beaucoup Vincent Bruegviel d'être venu dans les matins d'été de France Culture. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pourquoi c'est connu, le fabuleux destin des icônes du Louvre, édité par la Réunion des musées nationaux Grand Palais.